ce qui avait commencé comme une vie prometteuse a été ravagé par 30 années de narcissisme, de ruines financières et de trahison glaciale de ceux en qui j'avais confiance. En tant que femme trans, j'ai été contrainte de me frayer un chemin dans un monde qui niait mon identité et exploitait ma vulnérabilité à la moindre occasion. Le poids de cette invisibilité est devenu insupportable. Maintenant que la vérité a éclaté et que la boucle est enfin bouclée, je reprends mon histoire en main pour la toute dernière fois. C'est mon adieu définitif à un monde qui ne m'a jamais permis d'être moi-même. L'enfer de Van Chondraguer. Même à 9 ans, je savais que j'étais « différente », mais mes sentiments n'avaient pas leur place dans ma famille. Mon enfance a été marquée par d'innombrables déménagements, car mes parents vivaient constamment au-dessus de leurs moyens. Ma mère, Tony Van Chondraguer, est une véritable narcissique. Mon père, Jean Van Chondraguer, était totalement absent émotionnellement. Un jour, j'ai demandé à ma mère pourquoi je n'avais jamais connu l'amour ni le réconfort, elle a simplement répondu « Je n'ai jamais voulu te donner ça. » La princesse qui marche sur les cadavres. Ma sœur, Stéphanie Van Chondraguer, a toujours été traitée comme une princesse et s'est comportée comme telle toute sa vie. Elle avait tout le droit de se permettre tout, tandis que ma mère détruisait toutes mes relations. Stéphanie a brisé de nombreux mariages et a même couché avec l'un de mes employeurs alors que sa femme était enceinte. Elle a été impitoyable toute sa vie, obtenant toujours ce qu'elle voulait. C'est une personne sans scrupules et sans cœur, qui ne pense qu'à elle et est totalement dépourvue d'empathie. C'est ma sœur biologique, rien de plus. La tentative de suicide à Boxtel. Lorsque j'ai sombré dans la dépression au début de la vingtaine et que j'ai ensuite tenté de me suicider à plusieurs reprises, ma mère a dit à mon psychiatre de l'époque que je voulais seulement « faire honte à ma famille ». Pendant mes 3 mois d'hospitalisation volontaire en clinique psychiatrique, ils ne sont jamais venus me voir. Lorsque le personnel soignant a demandé des vêtements à mes parents, ils les ont laissés dans un sac poubelle à l'accueil. Peu avant Noël, après 3 mois d'hospitalisation, j'ai dû quitter l'hôpital. Je n'étais pas le bienvenu chez moi et aucun suivi n'était prévu. Désespérée, le jour de ma sortie, j'ai pris des médicaments dans le sac d'un autre patient qui rendait visite à sa famille ce week-end-là. Avec ces médicaments, mes propres ordonnances et une bouteille de whisky, je suis allée dans un parc à Boxtel par un froid glacial. J'ai perdu connaissance et un médecin généraliste promenant son chien m'a trouvée. Il m'a emmenée dans la cuisine d'un restaurant et est resté avec moi jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Je n'ai repris conscience qu'à l'hôpital. Le souvenir de la sonde dans ma gorge et du liquide noir qu'on m'a injecté directement dans l'estomac aux urgences me hante encore aujourd'hui. Quand j'y repense, je regrette d'avoir été trouvée par ce médecin. Cela m'aurait épargné 30 ans d'enfer, un enfer qui se poursuit chaque jour, chaque heure. La fraude financière et la destruction de mon passé. Il y a 25 ans, j'ai rompu tout contact avec mes parents. Ils avaient encore menti et manqué à leurs engagements envers le fisc. Je m'étais porté garant pour eux, ce qui avait entraîné la saisie de tous mes biens. Ma sœur, Stéphanie Van Chondraguer, s'en est sortie indemne. Ce n'est qu'après une bataille juridique acharnée que j'ai récupéré mes affaires. Tout avait été délibérément et gravement endommagé. Le pire, toutes les photos de moi avant mes 18 ans avaient été arrachées des albums ou déchirées. Je n'ai pas récupéré un seul centime des plus de 50 000 florins. Mon passé et ma sécurité financière ont été délibérément anéantis. Le passage et les lettres interceptées. Je n'ai fait mon coming out en tant que femme trans qu'à 50 ans. Ce fut la plus grande erreur de ma vie, et en moins de 7 ans, elle a complètement détruit mon existence. Le 2 décembre 2024, j'ai ressenti un besoin impérieux, dans ma cuisine, d'aller voir mes parents à Son et Bregel, où ils vivent avec ma sœur. Ma sœur m'a ouvert la porte et m'a dit que je pouvais entrer, mais que mes parents étaient souffrants. Ma mère s'est assise sur le canapé et m'a tenu les mains en silence pendant 10 minutes. Lorsque j'ai interrogé mon père au sujet de la lettre que je lui avais écrite en janvier de cette année-là, une lettre qui m'avait pris 5 jours à rédiger, ma sœur a pris la parole. Elle a admis que la lettre était bien arrivée, mais qu'elle l'avait ouverte, lui avait décidé que mon père n'avait pas besoin d'en connaître le contenu. Elle m'a alors dit que c'était scandaleux que j'ose me présenter comme une femme et que je n'avais aucune idée de ce que je faisais subir à mes parents. Elle avait même intercepté les courriers officiels de la mairie concernant mon changement de nom. Après cette visite de 2h30, j'étais épuisée et j'ai passé 4 jours alitée. Plus tard, j'ai sévèrement réprimandé ma sœur Stéphanie pour son comportement répréhensible via Facebook Messenger, mais elle n'a jamais répondu. Personne disparue, Lisbonne et l'affrontement final. De la dernière semaine de mars 2025 à la première semaine d'avril 2025, j'ai officiellement été une personne disparue pendant 10 jours. Le matin de mon départ, j'ai donné mes lapins, Binky et Bruinch, après en avoir pris soin pendant plus de 6 ans. J'ai fait une vidéo d'adieu à la maison, garé ma voiture chez Mec, et passé la voiture et les clés de la maison, ainsi que tous les documents de la voiture, dans sa boîte aux lettres. Depuis sa maison, je suis allée à pied à la gare de Boskoop et j'ai pris le train pour Schiphol. À ce moment-là, je n'avais qu'un sac à dos et un sac de couchage. À mon arrivée à Schiphol, j'ai réservé un aller simple pour Lisbonne, déterminée à ne jamais y retourner. Une semaine après mon retour, je suis allée en voiture au Luxembourg acheter des cigarettes et j'ai passé la nuit dans la voiture. Sur le chemin du retour, je suis passée devant Son et Bruegel, où vivent ma sœur et mes parents. J'ai hésité, mais je me suis quand même arrêtée. Cette fois, on m'a refusé l'entrée. Ma sœur, Stéphanie, m'a dit « Ton père est très malade, tu n'es plus le bienvenu ». Quand ma mère, Tony Van Chondrager, est arrivée en titubant dans le couloir, Stéphanie l'a renvoyée au salon comme une enfant. Stéphanie m'a regardée et m'a dit « Va te faire foutre, connard ». Je lui ai dit « Je pars et tu ne me reverras plus jamais ». Tu devrais avoir honte de travailler à Eindhoven, à l'UWV, comme agente de réinsertion sociale et médicale. Tu m'empêches de voir mes parents et de décider par moi-même. Tu es toujours aussi impitoyable et tu fais semblant d'être quelqu'un d'autre. Conclusion. Le cercle est désormais définitivement fermé. Rompre les liens n'était pas un choix né de la colère, mais une nécessité de préservation face à une dynamique toxique de narcissisme, de tromperie et de négligence émotionnelle. Qu'une professionnelle travaillant dans le secteur socio-médical, comme ma sœur Stéphanie Van Chondrager, manipule et isole sa propre famille de cette manière est la confirmation ultime que le « pouvoir du toucher » n'a jamais existé dans notre famille. Je disparais définitivement, loin de l'ombre de Son et Bruegel, loin de ce monde où je n'ai jamais été autorisée à exister.